20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, on en connaît les premières mesures dans une interprétation plutôt pompeuse. Le Tédéum de Charpentier est une œuvre beaucoup plus légère, riche et contrastée que le générique de l'Eurovision ne le laisse penser. Louis-Noël Bession de Camboulas vient de nous en offrir une vivifiante interprétation au disque, un album qui met en regard le célèbre chef-d'œuvre de Charpentier avec le beaucoup plus rare Tédéum de Desmarets. Alors le chef de l'ensemble Les Surprises sera justement à notre micro tout à l'heure pour nous éclairer sur ces deux ouvrages. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Il fait sensation en ce moment dans L'Autre Voyage, cette production originale imaginée par le chef Raphaël Pichon et la metteuse en scène Sylvia Costa, d'après des œuvres rares et inachevées de Schubert, qui se donne jusqu'à dimanche à l'Opéra Comique donc. Stéphane Degout se lancera ensuite dans un nouveau voyage schubertien, mercredi soir, sur cette même scène de la salle Favart. Et quel voyage, le Winterreise, le voyage d'hiver, qu'il interprétera avec le pianiste Alain Planès. Alain Planès jouera à cette occasion sur un piano Pleyel de 1837. Une soirée qui s'annonce riche en émotions, Stéphane Degout étant déjà si bouleversant dans ce spectacle, L'Autre Voyage, tourné vers la mort justement, conçu par Raphaël Pichon. On peut imaginer à quel point il saura incarner ce voyageur, errant seul dans le froid et dans la neige, après avoir été quitté par sa bien-aimée. Rendez-vous donc mercredi soir à l'Opéra Comique. Et un grand rendez-vous de piano la veille, mardi soir à la Philharmonie de Paris. La pianiste italienne Beatrice Rana sera en récital avec un programme qui s'annonce dense et contrasté et qui devrait mettre en avant sa sublime palette expressive, tout comme son tempérament de feu. Elle jouera ainsi des pages peu connues de Scriabine et de Mario Castelnuovo Tedesco, ainsi que des préludes de Debussy, avant de nous offrir en deuxième partie de récital sa lecture de la monumentale impression sonate en si mineur de Liszt. Beatrice Rana, dont on découvrira dans quelques jours, au mois de mars, le tout nouvel album dédié à Chopin et Beethoven, alors que le tout dernier mettait à l'honneur Robert et Clara Schumann.
Thank you.
Le lied Widmung de Robert Schumann, transcrit pour le piano par Liszt, joué par Beatrice Rana. Beatrice Rana en récital mardi soir à la Philharmonie de Paris.
L'Or Maison sur Radio Classique.
C'est une musique de réjouissance qui s'ouvre bien souvent avec une fanfare associant tambour et trompette, une musique royale qui évoque donc forcément une certaine magnificence. Le Tédéum est un genre dans lequel se sont illustrés deux grands maîtres français tels Charpentier, auteur du plus célèbre, dont Louis-Noël Bestion de Camboulas nous offre sa lecture au disque avec son ensemble Les Surprises. Un Tédéum de Charpentier mis en regard avec le beaucoup plus rare Tédéum de Desmarets, des pages sur lesquelles Louis-Noël Bestion de Camboulas nous apportera son éclairage puisqu'il est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Le Tédéum, c'est une œuvre qui est commandée en général par un souverain, par un prince, pour célébrer une victoire, un anniversaire, une naissance, un événement important.
Oui, c'est ça. C'est souvent des moments importants. Et puis, c'est vrai que c'était aussi pour les compositeurs un moment pour essayer de tirer un petit peu la lumière sur eux. C'était des commandes importantes pour eux, en tout cas. D'où des œuvres toujours assez réjouissantes et puis très contrastées.
Alors j'évoquais la fanfare, puisqu'il y a une fanfare au début du Tédéum de Charpentier et de celui de Desmarets. Est-ce qu'il y a une structure particulière pour les Tédéums? Est-ce qu'il y a un déroulé précis des textes particuliers, comme on peut l'avoir sur certains genres de la musique sacrée, par exemple?
Bah oui, c'est vrai que c'est justement sur ces deux Tédéums qu'on a enregistrés, c'est évidemment exactement le même texte. Et puis, il y a peut-être, je dirais, des habitudes, des conventions de l'époque, en effet, de débuter avec des fanfares et de finir aussi avec des fanfares. Et puis, d'avoir, sur certains textes du milieu, à nouveau ces fanfares, donc trompettes, timbales. Mais je trouve que c'était assez intéressant de mettre ces deux œuvres en parallèle, parce que c'est exactement le même texte. On aurait pu penser que le traitement allait être le même, et c'est complètement différent. C'est vrai que chez Desmarets, c'est plus beaucoup de petites sections, beaucoup de solistes, quelque chose d'un peu opératique, alors que chez Charpentier c'est plus une grande forme. Et donc voilà, avec le même texte, comment rendre deux musiques complètement différentes?
Alors le Tédéum de Charpentier, il est célèbre, il est célébrissime même depuis notamment le XXe siècle. Il a été remis à l'honneur au XXe siècle et il a servi depuis les années 50 de générique à l'Eurovision. Alors il est célèbre pour quelques mesures, puisque le thème de l'Eurovision, c'est quelques mesures jouées d'une façon assez lourde,
assez pompeuse,
on peut le dire. Alors que quand on vous entend, on va écouter dans quelques secondes dans ce Tédéum, vous avez choisi un tempo beaucoup plus allant, c'est une interprétation beaucoup plus légère. Finalement, ce générique de l'Eurovision, même s'il a permis de populariser ce Tédéum, c'est un petit peu comme avec les 4 saisons de Vivaldi et le répondeur téléphonique.
Bien sûr.
Il nous a donné une image un peu caricaturale et vieillotte et pesante
musique. Oui, c'est vrai, le côté peut-être un peu caricatural de la grandeur et du coup d'une certaine lourdeur qui irait avec la grandeur. Alors que là, finalement, c'est vrai qu'avec un choix de tempo rapide, pour moi, on était dans la grandeur, mais surtout aussi dans la réjouissance, et dans quelque chose de très explosif aussi. Alors c'est vrai que quand on pense musique baroque française, on peut penser à des grands lieux, par exemple bien sûr à Versailles, à des grandes chapelles. Donc il y a quelque chose de très massif, mais en même temps avec beaucoup de décors, plein de petits angelots, des dorures. Donc c'est quelque chose de très très festif en même temps.
Thank you. Début du Te Deum de Charpentier par Louis-Noël Bestion de Camboulas et son ensemble Les Surprises, et un petit peu plus que les mesures que l'on a l'habitude d'entendre à l'Eurovision. C'est une œuvre dont on perçoit les accents de réjouissance, bien entendu, mais aussi des moments très intimes. Une œuvre finalement très contrastée, Louis-Noël Bestion de Camboulas, avec même parfois des accents pastoraux, avec notamment cette flûte.
Oui, complètement. Ben, c'est vrai que... et puis en plus, le début, il y a une partie du texte qui parle des anges, donc évidemment, c'est le moment où Charpentier utilise des instruments plutôt aigus, donc c'est hautbois et des petites flûtes à bec, qui nous, en effet, nous font penser à des scènes pastorales, et on pourrait avoir presque un peu la même musique dans des scènes pastorales d'opéra de la même époque. C'est quelque chose qu'on aimait beaucoup, donc ces espèces de bergeries rêvées.
Avec une instrumentation très chatoyante.
Oui, complètement.
Dans cette œuvre. Alors, ce Te Deum de Charpentier, il était censé célébrer une victoire. On pense que c'est la bataille de Steinkerque en 1692, la victoire de l'armée française contre les Anglais et les Hollandais. Mm-hmm. Est-ce qu'un Te Deum pouvait être utilisé à plusieurs reprises, ou est-ce qu'il était lié à un seul événement? Est-ce qu'on pouvait recycler?
Oui, apparemment, ça pouvait être assez régulièrement recyclé. Bah, notamment, par exemple, celui de démarrer, on ne sait pas exactement pour quelle occasion il a été composé, mais on imagine qu'il a été repris, alors c'est une supposition, mais qu'il a été repris à un moment, lors d'un voyage, en fait, le moment où la future femme de Louis XV était en voyage, et donc elle est passée pas très loin de la Lorraine, où était Henri Desmarais à ce moment-là, et donc elle s'est arrêtée dans une grande ville proche de la Lorraine, et pour l'occasion, on y a joué possiblement ce Te Deum. Donc évidemment, on les reprenait, et puis on les reprenait aussi dans des formats concerts. Alors c'est vrai qu'il y avait évidemment toute cette grande pompe pour des occasions royales souvent, mais ça arrivait qu'on les joue uniquement pour leur intérêt musical, parce que, alors, autant à Paris, c'était par exemple dans la salle du concert spirituel, où on faisait beaucoup de concerts, mais dans d'autres villes, comme à Lyon ou à Bordeaux, il y avait des sociétés de concerts qui jouaient des grands motets, dont des Te Deum.
Alors, Charpentier aurait composé, j'ai appris ça en lisant le livret qui accompagne votre enregistrement, 6 Te Deum, il en reste 4, mais est-ce qu'on joue les 3 autres, parce qu'on a l'impression qu'on joue le Te Deum de Charpentier.
Exactement, oui, on les joue beaucoup moins, c'est vrai.
Mais ils sont aussi intéressants.
Ils sont tous très intéressants, finalement. Bah, tout ce qu'a écrit Charpentier est souvent très intéressant.
C'est de la belle musique. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on les joue beaucoup moins. Et par exemple, Henri Desmarais, lui, en a écrit. Enfin, en tout cas, il nous en reste 2. Et les deux sont très différents. Et d'ailleurs, chez Charpentier, c'est vrai qu'on est habitué toujours à ces trompettes, timbales.
Bah, quand on annonce le Te Deum de Charpentier, les gens sont peut-être déçus s'ils ne le reconnaissent pas. C'est peut-être ça le problème.
Et c'est vrai que dans d'autres Te Deum de Charpentier, on n'a pas justement cette instrumentation de trompettes et timbales. Donc quelque chose de peut-être un petit peu plus intime. Ce qui est le cas aussi chez Desmarais, son deuxième Te Deum n'a pas de trompette et timbales, donc ça donne une autre couleur.
Voilà, donc c'est le premier Tédéum, si j'ai bien compris, de démarrer, que vous avez enregistré, Louis-Noël Bession de Camboulas. Le Tédéum de Lyon, mais qui aurait pu s'appeler le Tédéum de Lorraine, puisqu'il a donc été composé pour la cour de Lorraine. Comment l'avez-vous découvert? Est-ce que c'est une partition qui était restée dans les tiroirs?
C'est vrai que, en tout cas, elle n'avait pas été enregistrée, rejouée peut-être de façon... avec des extraits, mais je pense que, en effet, c'est une façon de la faire ressortir des tiroirs un peu. Alors, il s'appelle De Lyon, ce Tédéum, uniquement en effet parce qu'on a retrouvé les partitions à Lyon. Justement, c'était la société de concerts de Lyon qui organisait des concerts à Lyon, qui avait beaucoup de partitions, et c'est grâce à cette société du XVIIIe siècle qu'on a retrouvé des partitions. Elles sont maintenant dans la bibliothèque de Lyon. Et c'est un travail en fait qu'on fait avec le Centre de musique baroque de Versailles, puisque ça fait quand même pas mal d'années avec l'ensemble des surprises qu'on travaille ensemble, qu'on a travaillé aussi notamment sur une résidence pendant plusieurs années. Donc régulièrement, on discute avec le CMBV, donc le Centre de musique baroque de Versailles, des œuvres qui n'ont pas encore été rejouées, celles qui seraient intéressantes, les projets de recréation, on peut dire, d'œuvres.
Alors, comme pour le Requiem de Charpentier, ce Tédéum de Desmarets, c'est une œuvre assez contrastée, où il y a autant d'accents jubilatoires que de tendresse, finalement.
Oui, de tendresse, de passage même voire assez sombre. Puis, je trouve que c'est ce que je disais au début, c'est un traitement très différent avec le même texte. Et Desmarets est peut-être encore un peu plus dans l'opéra que ne l'est Charpentier, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de sections, de courtes sections, et beaucoup d'interventions de solistes. C'est ça qui m'intéressait aussi avec ce Tédéum-là. C'est que on a, disons, beaucoup de possibilités. Alors, des solos de soprane, des solos de haute contre, des solos de basse, mais aussi des duos, des trios. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui.
Et des très beaux passages de chœur aussi. Hein.
Oui, des magnifiques passages. Oui.
Salvum fac populum tuum.
Quelques extraits du Te Deum de Lyon, de démarrer par l'ensemble Les Surprises, dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas, qui est notre invité ce soir, et avec ici en soliste François-Olivier Jean, Eugénie Lefebvre et Jeanne Hamzal, un extrait de cet enregistrement qui vient de paraître chez Alpha. Vous avez déjà un autre enregistrement en cours, en projet
En projet, oui, pour avec les surprises. Pour les années à venir, avec Les Surprises, avec Alpha. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et c'est quelque chose qui va continuer. Ouais.
Alors, avec également une riche actualité de concerts pour Les Surprises, vous serez ce dimanche, le 11 février, à Quimper, au Théâtre de Cornouailles, puis lundi et mardi, les 12 et 13 février, à Saint-Brieuc, pour un programme autour des airs de folie, mêlant des musiques de différents pays européens. Il y aura des touches françaises, italiennes, anglaises.
Oui, complètement. C'est ça, la folie à travers la musique, toute l'Europe baroque, parce que c'est vrai que c'est un thème qui a beaucoup marqué les compositeurs, alors les artistes en général.
Un thème très célèbre. Qui a fait l'objet de multiples variations.
Exactement.
Et puis vous redonnerez le 15 février à Namur, ainsi que les 6 et 7 mars à l'Opéra de Limoges, ce truculent spectacle que vous avez créé l'été dernier. C'est un véritable vaudeville qui est basé sur le principe de la parodie, qui tourne en dérision une tragédie lyrique. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque baroque.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui était très très courant. Et d'ailleurs, c'est un peu même grâce à ça qu'on pouvait mesurer à quel point les œuvres étaient connues. C'est-à-dire que finalement, des opéras connus avaient beaucoup de parodies. Et c'est quelque chose qu'on faisait souvent, des fois dans des formes toutes petites, des fois dans des grandes formes. Alors c'était souvent des troupes de théâtre, des troupes de théâtre italiens, souvent d'ailleurs, qui mêlaient texte parlé, texte chanté, avec quelques instrumentistes, des décors, et puis voilà, très proche de la Commedia dell'arte aussi quand c'était des Italiens. Donc c'était des spectacles, on l'imagine, très drôles. Et c'est vrai que nous, avec ce, d'autant plus qu'on est quand même sur une thématique, mais des jasons qui est plutôt sombre.
Donc on a
quand même voulu mêler tragédie et comédie. Et c'est vrai qu'on peut passer en tout cas du rire aux larmes assez vite.
Et avec, pour incarner Médée et Jason, deux véritables bêtes de scène, on peut le dire, Lucille Richardot et Flanant Aubé, dont on connaît le charisme sur scène et qui sont deux merveilleux chanteurs, avec pour décor des tréteaux de théâtre et des musiciens sur scène. Alors les musiciens, parce que j'ai vu le petit film qui accompagne sur Internet, vous êtes costumés, maquillés, vous bougez.
Ouais. Bah, l'idée, c'était d'être tous sur scène, donc autant les instrumentistes, les chanteurs, il y a des danseurs aussi qui chantent eux-mêmes aussi, même d'ailleurs une technicienne de plateau qui fait partie du jeu avec nous, qui chante également. C'était en effet l'idée de retrouver cet esprit de troupe qu'avaient ces troupes du XVIIIe siècle qui faisaient tout avec finalement à l'époque peut-être assez peu de moyens. Mais c'est un spectacle très agréable à faire et je crois très très agréable aussi à regarder. Et en tout cas on a eu beaucoup beaucoup de rire quand on l'a créé l'été dernier. Oui.
En tout cas ça donne envie quand on voit le petit film, le petit teaser sur Internet. 6 et 7 mars à l'Opéra de Limoges, et c'est un spectacle que vous redonnerez éventuellement encore
dans la saison prochaine qui va retourner pas mal dans des scènes nationales.
Voilà, sur des musiques de Charpentier, Lully, Rameau.
Oui, c'est plein. En fait, finalement, on est parti d'un texte de l'époque et moi, j'ai rajouté dessus des musiques là où, en fait, c'était demandé et puis de temps en temps pour des certaines ambiances musicales. Et donc, c'est une sorte de patchwork qui est très agréable à faire et qui marche très très bien, je trouve.
Voilà, pour ce Médée et Jason. Et puis au disque, les Te Deum de Charpentier et de Desmarais, un magnifique enregistrement qui vient de paraître chez Alpha avec votre ensemble Les Surprises. Et on va se quitter sur quelques notes de musique anglaise que vous jouerez ces prochains jours, dès ce dimanche, à Quimper. Merci beaucoup Louis-Noël Bestion de Camboulas.
Merci, avec plaisir.
Thank you. Great Horus, woman, to a hurried man to his grave. You may think, you may plot, you may sigh like a sot. She yours is your warlike slave. There nothing so fatal as woman to a hurry a man to his grave. You may think, you may plot, you may sigh like a sot. She yours is your warlike slave. But apart from all, of all it be common, the cheat of the fair will undo. It will drive from your hand the delight of the bread in the trunk is not able to move. It will drive from your hand the delight of the bread in the trunk is not able to move.
Quelques notes d'André Purcell, un hornpipe du King Arthur et à l'instant l'une de ses songs chantée par Étienne Bazola avec l'ensemble Les Surprises de Louis-Noël Bestion de Camboulas. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Lundi, c'est la violoncelliste Anastasia Kobekina qui sera à notre micro et qui nous emmènera à Venise. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.